La bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. 10 épisodes qui retracent la saison 2 des racines de la créativité. Je suis Pascal Roby, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bande originale créative, le 7e épisode de ta série de l'été sur la créativité. Et aujourd'hui, on va parler de valeur ajoutée. Comment amener de la valeur dans tes contenus, dans tes offres. Bref, cette putain de valeur ajoutée, ça va être le sujet de ce nouvel épisode. Mais d'abord, abonne-toi aux racines de la créativité si ce n'est toujours pas fait. Pour cela, tu peux t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Encore.fm, Google Podcasts et toutes les plateformes de podcasts disponibles sur la Terre entière. Ou bien, tu peux tout simplement t'abonner à la newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors, maintenant, on va discuter de cette putain de valeur ajoutée parce que moi, je sais pas, mais chaque fois que je tombe sur un contenu qui parle d'entrepreneuriat ou de marketing, il y a toujours à un moment donné le gars ou la nana qui te parle d'entrepreneuriat ou de création de contenu ou d'infoprenariat ou de marketing digital, voilà, c'est le mot que je cherchais. À un moment donné, il te dit « Non, mais dans tout ce que tu fais, tu dois amener de la valeur, tu dois créer de la valeur ajoutée. » Ouais, d'accord, mais moi je pose la question très con, c'est bien d'apporter de la valeur, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Alors justement, j'ai demandé à quelques-uns de mes invités du podcast de me dire c'est quoi la valeur ajoutée. Alors pour ça, tu vas entendre la définition d'un ancien marketeur d'un grand groupe, Monsieur Dan Noël. Après tu vas entendre la définition de mon camarade Arnaud Strazel, parce que lui... Il a aussi sa définition de la valeur ajoutée, et tu vas voir, elle va sortir un petit peu des sentiers battus. Ensuite, tu auras la définition de mes deux camarades, Thomas Burbidge et Christopher Piton. Mais d'abord, avant de savoir ce qu'est la valeur ajoutée, un petit rappel de ce qu'est la créativité. Parce qu'apparemment, ça a potentiellement un lien avec la valeur ajoutée. Et pour ça, le meilleur moyen de savoir c'est quoi la créativité, c'est de demander à quelqu'un qui a fait des recherches pendant des années sur le sujet. Cette personne, c'est Monsieur Todd Lubar, professeur à l'Université Paris-Descartes et un des plus grands spécialistes de la psychologie en créativité. Et donc, il va tout simplement te rappeler c'est quoi la définition de la créativité. Et ensuite, on va voir le lien avec la valeur ajoutée. C'est parti.
Une autre manière de mesurer la créativité et de demander aux gens de nous proposer, de nous indiquer ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, auto-évaluation un peu, ce qu'ils ont pu accomplir, et ils vont lister plus ou moins des choses et on va pouvoir apprécier que certaines de ces choses c'est remarquable. Ça vaut des prix, des quelque chose dans leur domaine. Et d'autres choses, c'est une petite idée qu'ils ont eue, qu'ils ont réalisée. Et donc, c'est un indice de leur créativité, soit dans le cadre de leur métier, soit dans le cadre de leur vie de tous les jours. Donc, c'est une autre manière de procéder. Et parfois, dans des recherches, on utilise une tâche de pensée divergente. Exemple, et dans ces tâches, on demande aux gens de produire beaucoup de petites idées en réponse à une question avec un stimulus précis. Et donc, les gens vont produire énormément d'idées, si possible, dans un temps limité. C'est une sorte d'indicateur de la puissance de génération d'idées. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce type de tâche égale une vraie tâche créative où il faut élaborer des idées.
D'accord, donc en fait, pour vous, en fait, vraiment la créativité, en tout cas telle que vous l'avez conçue, telle que vous le recherchez, c'est avant tout la génération de nouvelles idées.
Oui, et ces idées sont à la fois originales, d'une part pour la personne, mais d'autre part pour leur entourage social. Donc c'est OK. Sinon, on peut dire c'est un acte créatif pour l'individu. Mais si c'est une idée déjà connue, ce sera forcément moins coté parce que la créativité le plus souvent se place dans un contexte social. Et donc, ce que d'autres gens ont fait a une importance dans l'appréciation de l'originalité d'une idée, sauf si on parle à l'échelle individuelle de la seule personne. C'est-à-dire, si moi, je produis une idée qui est pour moi très originale, mais connue par d'autres déjà, au moins pour moi, à mon échelle, c'était un acte créatif. Mais ça ne va pas quand même trop intéresser le milieu social. Et sinon, on associe aussi la notion que l'idée originale doit faire sens dans le contexte, doit répondre aux exigences de la tâche. Donc, il y a cette notion que l'idée a une valeur. Ce n'est pas une idée complètement étrange, hors sujet, qui est n'importe quoi. Ça peut être très original, mais ce n'est pas vraiment la créativité.
D'accord, donc en fait, pour qu'une idée finalement ait de la valeur, elle doit quand même toucher en fait au moins une personne de plus que soi-même, et si elle touche un grand nombre de personnes, elle devient vraiment créative.
En fait, on peut parler de la créativité complètement à l'échelle intrapersonnelle, c'est-à-dire juste pour vous. Mais dans la plupart des discussions de la créativité, on est sur la créativité dans un contexte social. Donc, le contexte social, la plupart du temps, compte. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas que mon opinion qui fait que l'idée est très originale. Il faut aussi d'autres gens, soit des gens de mon entourage, soit des gens de ma discipline, de mon métier, par exemple. Donc, mais il y a cette notion que l'idée apporte une valeur, apporte une réponse, ses sens par rapport à l'objectif, le but, en quelque sorte, de l'activité.
Alors, écoute, apporter de la valeur, pour moi, c'est quand tu le fais de manière totalement altruiste et non détournée. Parce qu'il y a trop de gens et de marketeurs, je dirais, mauvais style, disons-le comme ça, qui comprennent que le phénomène de la réciprocité est vieux comme le monde et qui fonctionnera toujours. C'est-à-dire qu'en délivrant énormément de valeur, tu crées un sentiment de réciprocité qui fait que l'autre te doit quelque chose dans sa tête. Pour moi, la délivration de valeur véritable, c'est quand toi, tu as quelque chose à donner. Quelque chose à donner, ça peut être une compétence à partager, ça peut être une solution à apporter, ça peut être enlever une épine du pied à quelqu'un, lui apprendre quelque chose, l'inspirer, tout ça, c'est des éléments de valeur. Mais pour moi, la vraie valeur, elle se situe quand tu le fais de manière altruiste à 100%. Et qu'après, si tu as un retour, c'est normal. Hein, c'est le côté, tu injectes une énergie dans un système, le système finit irrémédiablement par te renvoyer l'ascenseur. Mais dès qu'on tombe dans un phénomène où on dit délivre de la valeur, parce que comme ça, tu vas recevoir quelque chose, ça ne marche pas. Et le nombre de clients que j'accompagne qui disent, mais c'est dingue, hein, moi j'essaye de faire des trucs, je fais des vidéos, je donne des conseils, et puis le but, c'est de vendre mon séminaire derrière, ça ne marche pas. Eh bien, c'est peut-être parce que ton objectif principal, c'était non pas de délivrer de la valeur pour que l'autre progresse dans sa propre pyramide, ce qui pour moi est la vraie définition de la valeur, mais c'est plutôt auto-centré. Et ça ne marche pas.
Donc en fait, moi ça me rappelle en fait une question en fait que pose souvent David Lefrançois dans ses séminaires. Mais finalement en fait pour toi la valeur, ça pourrait se résumer en fait à cette question, mais c'est quoi ton intention de départ et comment en fait cette intention va contribuer?
Exact. Et pour toi, c'est ta propre pyramide de contribution. Pour moi, vraiment, délivrer de la valeur, c'est quand j'ai contribué à rendre la vie un peu meilleure de quelqu'un d'autre, pas le sens biblique, on est d'accord. Et du côté de celui qui reçoit la valeur, il reçoit vraiment de la valeur quand ça lui a permis, je dirais, de nourrir quelque chose dans sa propre pyramide, soit lui faire vivre une expérience, l'inspirer, soit lui permettre de se développer, de grandir, ou soit lui-même de lui donner suffisamment de valeur, ça c'est le truc ultime, pour que lui-même devienne un contributeur pour quelqu'un d'autre. Et là, tu mets en place véritablement la véritable économie circulaire, la vraie durabilité de l'humain, quoi, et de notre société au sens noble du terme, contribuer à... que c'est qu'on devienne tous meilleurs les uns avec les autres. Alors, c'est hyper bible, hein, c'est, on l'a dit, on allait monter dans des trucs un peu faramineux, quoi, là. Mais tes questions m'amènent à ce genre de vision fondamentale de la vie, quoi.
Ben, moi, j'aime bien parler des principes. Moi, je trouve que c'est super important de parler des principes, des définitions, parce que c'est à partir des principes et des définitions, ensuite, que les techniques découlent et que les stratégies et les techniques découlent. Si on connaît pas, tu vois, les principes les principes en fait qui sont les causes des techniques, voilà, si on les connaît pas, en fait on perd l'essence du marketing. Donc pour moi c'est super important de faire de parler de ça.
Bah, tu vois, je m'excuse, je te coupe, je suis comme ça.
Hein. Vas-y.
Pétillant, mais ça me rappelle un truc incroyable. Quand j'ai commencé à bloguer là, il y a 4-5 ans, frénétiquement toujours, je reprends le même mot. Et ensuite faire de la vidéo. Mon associé de l'époque, qui avait déjà passé 7 ans de balai, lui, quand il a vu ce que je faisais, il m'a chopé. Il m'a dit, écoute, il faut qu'on aille boire un café. Il m'a dit tout de suite, écoute, Dan, j'ai vu tes trucs, c'est génial, mais t'arrêtes. Je lui dis, mais pourquoi j'arrête? Il dit, t'es en train de donner toutes les semaines, tous les jours, ce qu'on vend, quoi. T'es complètement débile. Hein, tu files gratuitement ce qu'on vend à 200 euros de l'heure. Fais encore ça 6 mois, puis on n'aura plus de boulot, quoi. Alors, on l'a écouté poliment, hein, privilège de l'âge, mais dans ma tête, je me disais, écoute, cause toujours papy, je contribue. Et je suis sûr qu'on me le rendra. Et plus tard, c'était le cas, puisque en étant vraiment dans cette définition de la valeur telle qu'on vient d'en parler, eh bien, cette approche-là, totalement altruiste, tournée vers la contribution, m'a permis de dire, on arrête toutes nos actions de marketing usuel, publicité dans les jours, machin, et aujourd'hui, de générer 4 à 5 gros clients par semaine, quoi. Mais sans tunnel de vente, sans machin, juste par le fait de contribuer, quoi. Et ça, c'est la valeur.
Mmh. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ta définition d'apporter de la valeur, c'est que la valeur, en fait, tu l'apportes aussi bien pour ton client, mais que pour toi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dans un sens. C'est-à-dire quand tu la distribues, en fait, c'est gagnant-gagnant aussi bien pour ton client que pour toi.
Ouais, exactement. C'est un win-win, vraiment. Tu vois, et c'est là où on contribue mutuellement, on continue la chaîne et que on crée quelque chose de positif.
Bah, moi, des fois, j'ai des gens, je les ai au téléphone, ils sont très intéressés, on se voit en visio. Là, il y a des choses qui ont changé, ils trouvent plus la pertinence en fait, de mon offre. Et là, je leur fais, c'est pas grave. En fait, j'essaye de faire vraiment un point de leurs enjeux, de ce qu'ils ont le plus besoin. Si c'est pas ma solution, peut-être que je peux les référer à un partenaire avec qui je travaille, qui lui a la bonne solution. Mais j'essaie toujours de voir quel est en fin de compte le projet de la personne, quelles sont ses difficultés, ses problématiques, qu'est-ce qui la frustre en fait par rapport à cette situation. Parce que si elle acceptait de passer cet appel avec moi, c'est qu'elle a un problème ou un truc à résoudre. C'est quelque chose qui l'emmerde profondément. Et justement, c'est cette chose, même si je signe par moi avec elle, c'est cette chose que je vais essayer de chercher et de comprendre pour en fait l'orienter vers la bonne personne. Parce que j'utilise pas que mon réseau LinkedIn pour prospecter, j'utilise aussi pour construire un réseau de partenaires et des gens potentiellement qui peuvent aider aussi mes clients.
Oui, parce que ce dont on parle, le follow-up, ça marche pas uniquement sur LinkedIn. En fait. C'est vraiment une compétence sociale. Hein. On pourrait même un soft skill. On pourrait vraiment appeler ça un soft skill, à savoir que savoir suivre des relations, ça vaut pas uniquement en business, ça vaut dans tout. Hein. Ça vaut même dans d'autres aspects de ta vie. Hein. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que toi, même si tu recommandes derrière, par exemple, un partenaire, et que tu sais que voilà, la transaction s'est faite, toi, après, tu peux revenir quelques semaines plus tard en disant « Oui, bonjour, je vous ai recommandé à un de mes partenaires. Je voulais savoir comment ça s'était passé. »
Regarde, là, j'ai un client là non, un prospect, ouais, mais pour moi, je parle en tant que client.
C'est important, on en fait la différence.
Ouais. Mais je veux dire que c'est mon client parce que pour moi, on a construit une relation. Voilà, aujourd'hui, mon truc, mon offre l'intéresse, mais par contre, il a d'autres étapes avant. Il a d'autres étapes, il doit par exemple aller voir quelqu'un pour que sa formation soit remboursée par le CPF, soit prise en charge par un CPF. Bien, je vais recommander vers la bonne personne, ils vont faire affaire ensemble, et ensuite, en fait, moi, je vais revenir. Et là, on va travailler ensemble. Je ne dis pas, OK, le contrat, c'est bien, il faut que je signe maintenant, et tout ça. Je dis, OK, quel est le besoin, quelle est la plus grosse problématique, le problème numéro un qui fait que mon client aujourd'hui, ce n'est pas encore utile ou ce n'est pas encore pertinent de signer chez moi, qu'on travaille ensemble. C'est peut-être que je mette en relation avec une autre bonne personne avant et qu'il puisse travailler dessus et ensuite il reviendra vers moi. C'est vraiment se soucier en fait du besoin réel, des problématiques en fait réelles. C'est vraiment les problématiques. Je ne sais pas, quelqu'un se casse le pied devant toi, est-ce que tu vas absolument lui vendre un fauteuil roulant ou est-ce que tu vas déjà te préoccuper de faire en sorte qu'il puisse soigner les jambes et ensuite lui proposer ton fauteuil roulant?
Apporter de la valeur, à mon sens, déjà il y a un prérequis avant. Le prérequis, c'est de savoir qu'est-ce que la personne qu'on souhaite avoir de l'autre côté, en gros, un contenu, entre guillemets, un podcast, un article, tout ce genre de choses, c'est un vecteur de relation. Aujourd'hui, tous les deux, on est en relation avec les gens qui nous écoutent par le biais de notre contenu. Et du coup, quand on crée ce contenu-là, il faut savoir qui est en face et qu'est-ce que cette personne valorise. Ce qui est du coup la manière de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur, c'est qu'est-ce qu'on valorise. Moi, par exemple, quelque chose que je valorise, c'est mon temps. Quelque chose que je valorise aussi, c'est les métaphores et les comparaisons et les réflexions un peu nouvelles, entre guillemets, les choses que j'ai pas entendues avant. Ça, c'est des choses que je valorise. Sachant ça, quelqu'un qui voudrait créer du contenu pour moi se devrait de réfléchir, du coup, ok, si Thomas valorise ces choses-là, un contenu qui apporte de la valeur, entre guillemets, lui apporte des choses qu'il valorise. Souvent, on utilise ça pour se dire que, en gros, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui répond aux questions que nos auditeurs, lecteurs, internautes se posent comme questions. Et du coup, ça leur apporte de la valeur dans le sens où, si j'ai une question que je me pose, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? C'est la réponse à mes questions. Ça, c'est quelque chose que je vais valoriser. Je désire avoir ces choses-là. Quelque chose qu'on peut désirer en lisant un livre et qui a de la valeur pour nous, du coup, c'est le fait de déconnecter du monde réel. Quand je lis un roman, ça a de la valeur pour moi, de me déconnecter de mes soucis du monde réel. Et du coup, je pense que c'est ça qui l'illustre, en fait, c'est de se dire, ce qui a de la valeur, c'est ce que l'autre valorise. Et il n'y a pas une réponse, universelle. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on oublie beaucoup trop souvent dans le marketing, c'est que le marketing n'a de sens que par la compréhension profonde de pour qui on le fait. Et si on ne comprend pas profondément pour qui on le fait, on ne peut pas faire de marketing. Et on ne peut pas créer des choses qui ont du sens, parce qu'on oublie la raison pour laquelle on les crée, c'est pour les gens et pour les autres.
C'est emmerdant, parce qu'en fait, tu rejoins une réflexion que je me suis faite dernièrement. Donc voilà, on va finir par être d'accord. Hein, donc, dernièrement, en fait, je réécoutais des audios de PNL, et je réécoutais notamment une formation, voilà, donc de Tony Robbins. Et justement, il est dans cette notion de finalement, c'est qu'est-ce que veulent les gens, tu vois, qu'est-ce que veulent en fait les gens à qui vous vous adressez. On est vraiment dans cette notion-là. Et ouais. Moi, il y a une question, on parlait de valeur, tu vois, comment apporter de la valeur, c'est vraiment d'identifier ce qui a de la valeur pour la personne, ou pour la cible, pour l'audience à qui tu t'adresses. Il y a une question que j'ai apprise en PNL et que j'ai redécouverte, et en fait qui porte tout son sens aujourd'hui, c'est Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette situation? Et là, tu vas tout de suite trouver en fait ce qui est important, ce qui a de la valeur. Donc, tu peux le faire pour toi. Et déjà, c'est super important de savoir ce qui a de la valeur pour toi. Et putain, ça, c'est cool. Parce que déjà, de s'apporter de la valeur, d'amener de la valeur ajoutée pour soi, putain, ça fait plaisir.
Grave.
Et derrière, quand tu es capable de t'apporter de la valeur, bah, la richesse intérieure dont tu parlais, hein, finalement, la première richesse intérieure, c'est t'apporter de la valeur pour soi-même. C'est comme ça ensuite qu'on peut en partager ensuite aux autres. C'est super important. On ne peut
ce
partager
matin,
que ce qu'on a.
Je peux te partager une petite réflexion.
Bien sûr.
Dans mon rituel matinal en ce moment, j'ai méditation, puis affirmation. Genre, j'ai un petit audio avec moi-même qui me lit mes affirmations que j'écoute. Et ensuite, j'écoute un épisode de podcast, de mon podcast du moment que j'adore, qui s'appelle Caffeine for the Soul, de la caféine pour l'âme. Et dans l'épisode de ce matin, la personne qui fait ce podcast qui s'appelle Michael Neal partager ce truc de on essaie souvent de se mettre dans un état d'esprit de je donne, d'être dans le don de soi, souvent au détriment du fait de, comme tu le dis, s'apporter de la valeur à soi-même et prendre soin de soi-même. Et ce qu'il disait dans l'épisode que je trouvais plutôt intéressant, c'est quand tes ressources à toi, tes besoins à toi et toi, l'être humain que tu es, est nourri, ta position par défaut, c'est de ensuite être dans la contribution. Et que souvent, quand tu es dans ce truc de don de soi, tu tombes dans un truc de... Tu te regardes toi-même en disant « Ah mais regarde, putain, moi je fais tout le temps que donner, et je suis tout le temps là pour les gens, et machin, machin, et on me rend rien. Alors que je mérite, putain, parce que j'ai mis... I've put in my hours, on dirait en anglais. » Alors que si on faisait l'inverse, et qu'on se nourrissait nous en premier, et qu'on prenait le temps de comprendre ce qui a de la valeur pour nous, comprendre notre système de valeurs, comprendre nos besoins et de les nourrir, et arrêter de juger que les autres sont responsables de nous, et de prendre notre responsabilité, on arrive dans une position par défaut, qui est, comme il dit dans le podcast, et je rejoins à fond cette réflexion de, quand tu es ton être humain équilibré, naturellement, ton élan, il va être d'aller aider les gens et de contribuer aux autres. Et j'adore cette réflexion que de nous dire, la nature même de l'humanité et de l'être humain, c'est d'être dans la contribution et d'être dans le fait de servir. Et moi, c'est une posture que j'ai vraiment envie d'enseigner aux indépendants qui me suivent et qui travaillent avec moi dans mes formations et tout. C'est de se dire, notre rôle, c'est « to serve » en anglais. Nous mettre au service des transformations d'autrui. Mais pour cela, on se doit d'abord de prendre conscience de nous, notre chemin, et nous, où on va, et nous, ce qui est important pour nous, et de rentrer dans ce cercle vertueux de nos besoins à nous et nos valeurs qui sont nourries pour ensuite contribuer du meilleur de notre être pour les autres. Et donc, on revient sur ce truc des transformations qu'on vit ensemble, et ainsi de suite.
En fait, lorsque quelqu'un m'a dit « il faut apporter de la valeur », du coup, pour moi, ça veut clairement rien dire parce que ça reste un concept qui est trop abstrait. La valeur, pour moi, c'est vraiment une question de perception parce que, au final, ce sont vraiment nos lecteurs, nos spectateurs, nos auditeurs, etc., qui jugeront de la qualité de notre contenu. Donc là, moi, je préfère plutôt parler de valeur perçue, c'est-à-dire la manière dont les gens vont percevoir nos contenus et c'est eux qui vont juger que notre contenu est bon, qualitatif ou très mauvais. Un petit peu comme les gens qui s'autoproclament experts. C'est plutôt au travers des yeux des autres que tu seras expert en fait. Et du coup, il y a à mon sens trois sortes de manières de renforcer cette valeur perçue. C'est la première façon, ça va être de, pourquoi pas, de proposer du contenu qui va être ce que j'appelle moi croustillant. Donc en gros, c'est l'idée que finalement ton audience va plutôt se rendre sur LinkedIn, entre autres, ou sur LinkedIn ou sur un blog, enfin peu importe la plateforme, pour justement rechercher du contenu qui soit concret, pratique, pédagogique, pour résoudre un problème ou leur casser un blocage, casser une fausse croyance, etc. La deuxième façon, ça va être plutôt le cas du contenu qui est plus plaisant. Donc là, c'est plus que ton audience va chercher des conseils pratiques et d'autres vont plutôt avoir besoin de se divertir. Encore une fois, le divertissement, ça a plusieurs sens. Tu peux te divertir sur YouTube en regardant des vidéos d'humoristique. Mais tu peux très bien aussi te divertir en disant de l'actualité. Ça dépend de la manière dont chacun se divertit, tu vois. Moi, je peux très bien passer un très bon moment à lire un article d'un gars qui me raconte toute sa péripétie entrepreneuriale, tu vois. Et troisième façon, ça va être de créer du contenu qui est polarisant. Et donc, on en revenait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et justement, ça serait une erreur de le faire. Donc, mieux vaut à la rigueur défendre ce que moi j'appelle une vérité impopulaire pour que bah, notre message puisse davantage résonner auprès de notre audience. Et à ce moment-là, attirer les personnes qui, justement, partagent notre vision, nos valeurs et notre manière de voir les choses.
Ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ta manière d'apporter de la valeur, en fait, c'est toujours en fait par rapport à la perception des autres, en fait. Donc c'est, on est vraiment en fait, si j'apporte de la valeur, c'est parce que, avec mes mots, hein, c'est que je me fais remarquer différemment en fait de mes concurrents. C'est ça en fait qui apporte la valeur. C'est ma façon en fait de me différencier et d'être perçu en fait, bah, comme un expert, en tout cas d'être reconnu comme le spécialiste pour bah, les gens à qui je m'adresse.
Voilà, et tu peux te faire reconnaître de différentes manières, tu vois. Moi, j'ai une personnalité qui est telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'aime être sérieux sans pourtant me prendre tout le temps sérieux, tu vois. Je peux laisser des vannes, je peux apporter des notes humoristiques, mais ça m'empêche pas derrière que les conseils que je propose soient concrets, soient efficaces, performants, et du coup, bah, ça permet de faire un bon mariage, c'est-à-dire à la fois être qui tu es tout en. Bah, t'adressant à ton public cible et en lui apportant vraiment là du coup de la valeur perçue.
Voilà, c'est la fin de cet épisode sur la valeur ajoutée et bah, j'espère que tu y verras beaucoup plus clair sur cette notion de valeur ajoutée. En tout cas, moi, maintenant, j'y vois un peu plus clair. Et donc, aujourd'hui, pour moi, la valeur ajoutée, c'est avant tout bien comprendre les gens de mon audience. C'est surtout une bonne compréhension de ce qu'ils comprennent et ensuite une bonne compréhension de ce qu'ils veulent. Et après, bah voilà, c'est à toi de faire le job. Tu dois créer le pont, le produit ou le message qui correspond entre ce que toi tu veux partager, ce que tu veux délivrer, et ce que ben, ton audience comprend et ce qu'elle veut. Et c'est vrai qu'il y a du taf, mais bon, c'est ça qui vaut la peine, tu vois. C'est pour ça aussi que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est le jeu, c'est ça le jeu. Si tu veux écouter l'intégralité des interviews bah, de toutes les personnes qui sont intervenues dans cet épisode, je te mets les liens juste en dessous dans la description. Je te dis encore merci de rester jusqu'au bout, d'écouter tous les épisodes de la bande originale créative et puis des racines de la créativité. Si tu sais pas encore fait, bah, tu t'abonnes, hein, c'est parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'aide à faire partager mon podcast et puis bah, ma vision de la créativité. Tu peux également t'abonner à la newsletter. Et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui pique, surtout quand on est français, c'est le sujet de la vente. Et ouh là 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 là, ce sujet, qu'est-ce qu'il est bien épineux? Qu'est-ce qu'il est bien épineux? C'est mieux en français, tu vois, c'est beaucoup mieux. Et ça, je vais le laisser, je ne vais même pas le couper au montage. La vente, la vente, la vente. Ce sera le thème de la semaine prochaine. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à demain matin dans ta boîte mail. Salut!